就与我随的阿阿语
18h-19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous, vous le savez, qui dit 18h dit quotidienne, c'est vous qui le dites et ça se passe sur Radio U. Nous recevons aujourd'hui Julien Collot qui vient nous présenter l'association Mascarade Records. En deuxième partie, nous écouterons une interview avec le réalisateur Camille Clavin qui présentait son film Birem au studio vendredi dans le cadre du Festival des Libertés des Droits de l'Homme. Mais tout de suite, l'association Mascarade Records et Julien Collot pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes donc président de Mascarade Records, pardon, une association qui promeut donc des artistes locaux et nationaux via l'organisation de tournées, de festivals, mais aussi à travers votre web radio, car Mascarade Records possède sa propre web radio, Nebula Radio. Peut-être que pour commencer, vous pouvez nous présenter l'association.
Bah alors en fait, nous on existe depuis 2017 sur le bassin brestois. Donc Mascarade Record, en fait, c'est un label web radio agence de booking à la base. Okay. Donc c'est-à-dire qu'en premier lieu, on a organisé des soirées, pas mal de soirées sur le bassin, sur Brest d'ailleurs. On était un peu tous DJ, donc on a commencé aussi à s'étaler un peu en France, parce qu'on avait des connexions à La Rochelle, à Bordeaux, etc. On a monté un label avec lequel on a sorti quelques relays, que vous pouvez retrouver d'ailleurs gratuitement sur notre Bandcamp. Et on a monté cette web radio du coup quand il y a eu le Covid, vu qu'on pouvait pas faire notre festival. Et depuis, cette web radio elle fonctionne très très bien, elle est toujours là. Ouais. On fait des takeovers notamment à Brest. Les Brestois nous connaissent bien parce qu'on fait souvent tous les deux mois au Grabuge. En fait, le takeover, on met en place en fait une émission. C'est un peu une émission mais avec des DJ sets. Donc ça commence à 18h, ça finit à 1h du matin. Et toutes les heures, il y a un DJ de la scène locale qui est mis en avant, où on fait des captas vidéo, etc. Donc voilà. Et on fait de l'action culturelle aussi à destination des jeunes, autour du mix et de la radio, et notamment via la création d'un podcast qui s'appelle le Popcast, avec la structure Les Jeunes du Four à la Nildut, où là, en fait, on les accompagne sur de la création de contenu, enregistrement d'interviews, montage, etc. Un peu comme ce que vous faites à Radio U, sous la forme d'un podcast. Qu'on peut retrouver, d'ailleurs, il y a le troisième épisode qui sort bientôt, sur Deezer, Spotify, etc.
Juste pour revenir du coup à la radio, qui est-ce qui participe c'est quoi, c'est les artistes, les DJ,
Alors, la radio, en fait, il y a trois points. Le premier, c'est la playlist. La playlist, en fait, c'est moi qui m'en occupe. Ouais. Donc, c'est environ 700 morceaux par mois que j'agrémente dans la playlist. Ça, c'est la journée. Le soir du mardi, mercredi, jusqu'au s'il n'y a pas de takeover samedi, c'est des émissions. Donc, on a des résidents, des DJ résidents d'un peu partout en France, voire en Europe. On a des Anglais, des Canadiens aussi, des Espagnols. Donc, qui nous envoient leurs émissions régulièrement. Et on invite aussi deux DJ. On va chercher. On fait un gros travail de recherche. Et après, il y a les fameux takeovers. Donc, maintenant, tous les mois à Brest, tous les deux mois à La Rochelle, tous les mois, on a une antenne maintenant aussi à Bruxelles. Okay. Enfin, voilà, on a tout ça. Ce qui demande beaucoup d'implication et d'argent. Donc voilà.
On va y venir. tu l'as dit, pour Mascarade Records, c'est extrêmement important de valoriser, de mettre en avant des artistes locaux quand même.
Oui.
Et on était au festival Longueur d'onde, nous, ce week-end, et le sujet, en fait, notre sujet lors du plateau, c'était comment dénicher en fait, des artistes locaux. À Mascarade Records, comment est-ce que ce travail
alors, les locaux, les réseaux sociaux, beaucoup de temps, malgré mes 39 ans et que je commence à être un peu un boomer. Non, mais il y a aussi l'envie de découvrir d'autres artistes, donc on essaye de suivre les collectifs, notamment aussi sur la programmation d'artistes. On avait un festival, malheureusement cette année, enfin 2025, on va pas pouvoir le voir faire. Mais cette année, on avait programmé Lisa Mozol, en fait, que maintenant les Brestois connaissent bien. Ouais. Ça, c'est pareil aussi, c'est de la connexion de connexion. On a des gens qui traînent aussi pas mal dans les soirées. Ouais. Jam, etc. Au niveau des DJ, beaucoup les collectifs. Je pense beaucoup à, notamment à Johan, anciennement Nightbirds, et Jordan de Phono, avec qui je suis quand même proche et qui me conseille beaucoup sur la scène électronique. Ouais. Parce que la particularité de Mascarade, c'est qu'on est plus reconnu quand même en dehors, parce qu'on a ce truc-là où on a toujours bougé. Notre fanbase à Brest est correcte, mais voilà, elle n'est pas non plus très démêlée. Donc c'est vrai qu'heureusement qu'on a ces piliers comme Jordan, Joe, enfin voilà, pas mal de Brestois en fait, qui nous donnent des conseils. Et puis aussi, bah voilà, on s'intéresse, ouais. On voit la presse, on vous écoute, vous, voilà, on a un... Non, mais c'est aussi le principe.
Mais justement, est-ce qu'il y a un type de musique qui vous intéresse plus qu'un autre, ou vous êtes plutôt ouvert?
Alors nous, c'est vrai que ce que j'ai pas expliqué, nous en fait notre vibe, j'ai envie de dire, c'est on va du jazz à drum and bass. Donc okay. En fait notre radio, ça a toujours été ça, Mascarade, ça a toujours été ça. On essaie de se battre pour un truc éclectique qui s'appelle la worldwide music, où vraiment on va pas s'arrêter, on va pas faire que de la techno. Il y en a qui le font très très bien, ou que du rap. Nous on aime vraiment toutes les musiques, mais après on est très ce qu'on appelle digger, qu'on va vraiment chercher. Donc c'est vrai que on a toujours défendu ça. Et une deuxième chose, en fait, de la culture pour tous. Alors la culture pour tous, ça peut être pour le public, c'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un événement à plus de 10 balles. On se refuse, notre festival pendant 2 ans a été gratuit, enfin sur donation. Pour les artistes aussi, c'est de leur donner voilà, un outil qu'on a monté, la radio, ou quand on monte des soirées, les mettre en avant. C'est vraiment aussi voilà, la culture pour tous. Et après, pour les kids, ces actions culturelles qu'on fait.
Justement, juste pour revenir au niveau local, une fois ces repérages qu'on déniche, voilà, les artistes, ça demande du coup un gros travail. Mais est-ce que derrière ça, est-ce qu'il y a un accompagnement? Parce que je pense à votre label, par exemple.
Ah bah, l'accompagnement, en fait, maintenant, non. C'est surtout des conseils qu'on va donner. Ouais. Par exemple, le takeover, c'est vraiment l'endroit que nous, on essaie de mettre en place. On invite des artistes locaux, mais qui aussi peuvent être juste des collectionneurs. Mais pour les artistes locaux qui veulent se développer, c'est donner des conseils. Et après, voilà, essayer de les mettre, de réseauter, quoi. On va les mettre sur des réseaux. Plus que voilà. Nous, on a fait surtout du booking et du développement avec des gros artistes, notamment Soulance, je pense à eux. Mais le but maintenant, c'est vraiment aussi de créer un média et de créer une structure où on va plus être en partage de savoir et de connaissances et de réseau. C'est ça. Okay. Après l'accompagnement, tout ce qui est management, etc., il y a des structures qui le font très bien sur Brest. Et je pense aussi qu'il y a... Il y a beaucoup de jeunes artistes, ils n'ont pas forcément besoin de nous, parce qu'ils ont tout dans leur téléphone, ils ont bien compris comment ça se passait. Donc le but, c'est si tu viens au takeover, tu repars avec ta vidéo avec laquelle, en tant que DJ, tu vas pouvoir aller démarcher des dates peut-être à Rennes ou à Paris ou à machin avec ta vidéo, etc. C'est plutôt ça l'aide qu'on apporte, et nous, ça nous permet de créer du contenu.
La culture, tu en as parlé, ou plutôt l'accès à la culture est quelque chose de primordial chez vous. Vous proposez des actions culturelles du coup pour les enfants, tu en as parlé. Comment est-ce que ça se passe exactement? Comment est-ce que les enfants ils sont comment est-ce qu'on rentre?
Alors il y a deux types. En fait, nous déjà on a fait pendant 5 ans un gros travail de prospection. En fait, on le voit un peu comme ça, c'est un peu un gros mot, mais c'est prospection, où on est allé dans tout le département. On a fait beaucoup d'initiations mixtes au départ, beaucoup en milieu rural, parce que Mascarade Record depuis 5 ans, c'est l'Ampel Poirzel, donc c'est plus la côte. Donc on s'est dit, il y a Astropolis qui le fait bien ici, nous on va aller un peu ailleurs. Après on est dans les médiathèques, etc. Et là, depuis peu, on s'est vraiment aguerri sur... On s'est pas mal formé sur sur la radio. Et le but, c'est vraiment de proposer aux jeunes un atelier où ils vont voir comment on crée du contenu, leur propre contenu, comment ils peuvent le présenter. Et surtout, le traitement de l'information, ce qui est vachement, super important en ce moment, surtout comment on voit certains de nos hommes politiques, même très haut, comment ils l'utilisent. C'est de prouver, de montrer, tu peux prendre ton sujet, on t'aide, comment tu peux préparer et le montrer aux gens. Donc, surtout, pour la radio, on leur dit, par exemple, si tu parles d'un chanteur, il faut vraiment que tu prennes, que tu aies en tête que tu vas présenter un sujet que peut-être une personne de 60 ans va écouter et ne comprend rien du tout, mais le but, c'est qu'ils comprennent à la fin. C'est ce truc de...
Il y a une certaine pédagogie.
Pédagogie. Ouais. Alors, on n'est pas des pros de pédagogie, mais c'est aussi de montrer que, tu vois, tu peux présenter à tout le monde. Enfin, c'est de les intéresser, de leur montrer, tu peux vraiment présenter tout. Et dans le podcast, ce qui est intéressant, c'est que, donc, je leur fais déjà un coucou aux jeunes du four, c'est qu'on a un petit groupe et tout de suite, ils ont pris le truc en main et maintenant, ils trouvent des invités. Ils font des interviews. Par exemple, dans le prochain épisode, il y a le directeur du cinéma de Saint-Renan. Ça dure une demi-heure. l'interview. Et voilà, ils ont compris le truc. Et ce qui est intéressant, ben voilà, c'est qu'au début, on arrive, on leur guide sur des sujets bateaux. Et à la fin, il y a une comité de rédaction comme chez vous, etc. Et puis voilà, donc là, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Après, sur les jeunes, bon, ben voilà, il y a des structures où ça fonctionne bien. Ouais. Il y a d'autres où, franchement, on est venu, on n'est pas revenu après, parce que voilà, on a fait notre truc. Et puis,
ça marche pas forcément.
C'est vrai que là, sur la radio, par exemple, on est plus sur, on va dire, sur du 11-17 ans.
OK.
Par exemple. On a arrêté de faire un peu plus jeune parce que je pense que là, en fait, sinon, ça commence à être garderie. Par contre, sur le mix, ça va être le contraire. C'est plus les jeunes où vraiment les 8-11 ans, là, ils aiment bien.
Ouais, OK.
Et c'est très drôle à faire avec eux.
Ouais, OK. Donc, on parle culture, on parle musique. On va faire une petite pause musicale.
Need your blast of roses, all the gods protect me, especially my moment. I thank God for everything. Don't need your blast of roses, I grew up without fun. Don't need your blast of roses, all the gods protect me, especially my moment. I thank God for everything. Don't need your blast of roses, I grew up without fun. Lost a lot of friends,
yes.
But I don't give a,
yes.
If I know what they think, yeah. Like many broken roses, my thorns make me bleed. That's what I feel. A lot of time because I wanted to die, and then I stopped trying to control my mind, to control my life on the pretext that I had a style. I need some space to tell in my heart that it's time to fly right now. Don't need your blessed roses, all the gods protect me, especially my mommy. I thank her for everything. Don't need your blessed roses, I grew up without falling. Need your blessed roses, all the gods protect me, especially my mommy. I thank her for everything. Don't need your blessed roses, I grew up without fun.
C'était le titre Zajaza de Rose feat. Macy Liu, qui était donc sur...
Alors c'était Roses de Zajaza et Macy Liu, mais c'est pas grave.
Okay. On parlait de tournées, de festivals, de soirées, hein, d'événements autour de la musique que vous pouvez organiser. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en présenter certains, et s'il y en a aussi qui sont à venir, hein.
Bah, voilà. En fait, la situation est telle que c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est qu'on est on est un peu comme tous les collègues de la culture, on est un peu dans le mal. En fait, on organise un festival à Ploumouguer depuis 3 ans. Et cette année, malheureusement, on le fera pas. Parce qu'en fait, tout simplement, les finances ne sont pas au beau fixe pour Mascarade. Et comme beaucoup de structures, on a un manque de soutien des pouvoirs publics. Donc, par contre, Voilà, le truc, c'est que ce que je peux vous annoncer déjà, c'est que le week-end de l'Ascension, le dernier week-end de mai, on organise un beau week-end de fête, comme on sait faire, dans le sud Finistère, à Combrite, au café local. Ça va être le moyen, en fait, de surdonation pendant 4 nuits. Il va y avoir des DJ d'un peu partout qui vont se relayer, avec des thématiques par soir, etc. Enfin, on vous garde la surprise. Et en fait, on va faire surdonation et pour essayer de faire un peu d'argent pour les comptes, en plus de la cagnotte que là, on lance.
C'est ça, justement. Ouais. Voilà, l'asso, elle fait face à des difficultés financières. Hein.
Ah bah oui, oui, bah, oui, oui, oui. Alors du coup, pour expliquer aux auditeurs, ouais, en fait, c'est que bah, nous, depuis 7 ans, on se bouge, on essaye d'avoir un peu de subventions. On en avait un peu. Et là, bah, comme beaucoup de structures collègues, on a pu parce qu'il y a une politique qui est mise en place. De coupes budgétaires très énervées. Moins énervées pour le Finistère que, par exemple, nos collègues des Pays de la Loire ou voilà, sur Paris, etc. Mais voilà, et puis on est une petite association, donc voilà, baisse de budget. Mais pas non plus que aussi, on a aussi, en fait, le souci, c'est qu'on a aussi des coupes budgétaires. On est victime de coupes budgétaires de structures qui nous suivaient, comme par exemple la CAF, où là, bah, il n'y a plus de financement, donc on nous dit, bah, les enveloppes, au revoir. Donc voilà, les structures avec lesquelles aussi on travaille pour les jeunes, qui ont moins de financement, donc qui ont des priorités qui sont autres aujourd'hui, c'est-à-dire que bah, sur une année, un espace jeune, il faut aussi qu'il fasse des sorties, des voyages, qui est normal. Donc bah, nous, on arrive en dernier. Donc c'est pour ça, donc on s'est cassé un peu la tête. On a aussi notre festival, on va pas se cacher, où on a eu un peu moins de fréquentation, et le gratuit, quand il pleut en Bretagne, bah, ça nous fait perdre un peu de monde. On a fait une soirée à la Carène où voilà, bah, ça, y a pas eu le monde escompté, ce qui arrive, hein, voilà. Mais donc on s'est cassé la tête, on s'est dit, est-ce qu'on fait un appel aux dons bête et méchant, c'est pas trop notre genre. Donc voilà, donc aujourd'hui, on propose pendant 2 mois, en fait, à, donc vous, auditeurs, vous pouvez nous aider. Pour une somme minimum de 10 euros, vous avez accès à toutes les sorties du label. Déjà, on vous les envoie avec un petit kit promo, stickers, etc. Et pendant 1 an, en fait, on vous envoie un contenu exclusif tous les mois par mail avec, bah, qu'on fait avec nos artistes de la radio, des artistes qui vont nous aider, etc. Donc le but, c'est qu'en fait, c'est cette petite contribution, on vous donne du contenu pendant 1 an, en fait. Il n'y a rien de gratuit, et puis il faut bien aussi que les gens s'y retrouvent. Ceux qui n'ont pas les moyens aussi, parce qu'on peut le comprendre, le partage autour dans sa famille, ses réseaux est important. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on veut sauver notre association, continuer à faire des actions culturelles pour les jeunes, continuer à avoir aussi des pratiques de prix, parce que les gens pourraient se dire, bah, vous avez qu'à augmenter vos prestations. Mais non, on n'a pas envie. Ouais. Et en fait, on pense aussi qu'à un moment donné, la culture pour tous, bah, ça veut dire aussi une implication de tous, mais aussi, bah, voilà, bah, soit aider à partager. Alors, vous pouvez retrouver les informations sur notre site internet, mascara-records.com, ou sur nos réseaux sociaux. Soit partager, soit donner 10 euros, c'est déjà ça, c'est cool. Si vous donnez plus, c'est bien. Je rappelle aussi que chaque don est déductible des impôts. Pour ceux qui payent beaucoup d'impôts, vous pouvez donner encore plus. Ouais, je suis un peu le téléthon, mais voilà. En fait, ce qui est important, c'est de savoir, c'est que voilà, nous, on essaie de se battre aussi en milieu rural. Alors peut-être qu'au Brestois, ça leur parle un peu moins, mais en milieu rural, pour que ça se bouge, pour qu'il y ait des choses. Et malheureusement, bah, avec une politique de coupe budgétaire, et je pense aussi à mes collègues brestois comme Astropolis, comme toutes les assos. J'ai vu là le Festival Invisible aussi qui faisait une cagnotte. Donnez aussi, si vous voulez donner au Festival Invisible, c'est important. Parce que bah, voilà, quoi, on se bat pour qu'il y ait des choses qui se passent. Et la culture, c'est important. Et si on commence à enlever la culture à tous nos jeunes et aux moins jeunes, bah, je pense qu'il va y avoir un gros souci. Voilà. C'était mon petit moment politique.
C'est donc le programme Full Support. Et donc, on invite nos auditeurs, les passionnés de musique, de soutenir l'association. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour finir ?
Et puis chaque soutien, c'est un pas de plus pour fêter nos 10 ans qui, on espère, seront magnifiques. Et puis, je voulais remercier aussi Radu pour le support que vous nous donnez depuis longtemps. Après, voilà, le dernier mot aussi, c'est de dire vraiment, même un petit partage sur les réseaux sociaux, une story, etc., ça compte. Et voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu.
Merci à vous.
À nos questions.
touch you with your crown upside down. Spiky parts in your eyes. Language leaks so slowly.
J'ai eu l'occasion d'interviewer Camille Clavin vendredi dernier et il était là à l'occasion du Festival des Libertés et des Droits de l'Homme pour présenter son film Birem, un film qui se passe dans l'actuel nord d'Israël. On écoute.
Qui sera donc projeté ce soir au cinéma Les Studios à Brest dans le cadre du Festival des Libertés et Droits de l'Homme. Et donc c'est l'histoire de Nagma, une jeune Palestinienne qui décide de retourner à Birem, le village de sa famille qui a été détruit pendant la Nakba en 1948. Elle veut renouer avec les souvenirs de son grand-père qui, lui, y vivait. Comment est-ce que l'idée de ce film a émergé en vous? Il me semble que tout est parti d'une vidéo d'une ONG israélienne.
Oui, c'est ça. En fait, j'ai vu... Bon, j'avais fait un précédent film qui s'appelait « Vers où Israël ?» Et j'avais à cette occasion interviewé pas mal de personnes sur justement les mémoires de ce pays et ce que j'appelais le conflit, la légitimité, qui est le plus légitime entre Palestiniens et Israéliens. J'avais beaucoup interrogé la société israélienne et ses blocages. Et parmi les gens que j'avais interviewés, il y avait Ethan Bronstein, qui avait fondé cette ONG, enfin cette association qui s'appelle Zorot. Je le dis jamais bien, mais c'est une association qui permet la promotion de la mémoire palestinienne et des villages, en particulier les villages palestiniens détruits pendant la Nakba. Il y en a eu 500, plus de 500. Et donc voilà, j'avais vu Ethan, il était d'ailleurs, je l'avais interviewé, etc. Je suis rentré à Paris après ce film que j'ai fait vers Israël, et je retrouve une vidéo d'Ethan suivant une jeune fille, peut-être 13 ans, 12-13 ans, qui circule au milieu d'un village incroyable, magnifique. Et j'ai eu un choc visuel, en fait. J'ai vu effectivement cette jeune fille qui expliquait à la personne qui le suivait, donc Ethan, avec son téléphone portable, hein, c'était juste une vidéo toute simple, qu'elle aimerait retourner dans ce village, qui est le village de son grand-père. Ce village, c'est Birem. Et j'étais complètement submergé, en fait, par cette vidéo. C'est parti de ça. Et une semaine plus tard, je suis allé en Israël commencer mes recherches.
Et donc, vous, dans votre film, la personne principale est donc une jeune femme qui s'appelle Nagma et qui est donc partie à la découverte, vous le disiez, du village de ses ancêtres, qui est donc Birem, un village qui a été abandonné, qui est en ruine, actuellement et qui se situe dans le nord d'Israël. Est-ce que vous êtes donc vraiment allé en fait là-bas tourner dans le village?
Oui. Alors le personnage s'appelle Naham. Bon, c'est bon, peu importe, mais c'est plus juste. Et effectivement, je suis allé dans le village, en fait, un village à côté, parce que ça c'est un village détruit, donc il y a que des murs. Il n'y a plus personne n'y habite, puisque tous les habitants ont été expulsés en 1948, comme quasiment tous les Palestiniens de la Palestine historique. Et donc, du coup, je suis allé dans un village à côté qui s'appelle Jish, qui est à 5 km, où il y a des descendants et encore quelques trois vieilles personnes, enfin vieux monsieur en particulier, pas de femmes, je crois pas. Il y a trois vieux monsieur qui ont connu cette époque et qui étaient adolescents au moment de la Nakba. Et les descendants qui vivent donc à 5 km, ceux qui n'ont pas été expulsés. Ce qu'on appelle, eux, on les appelle les réfugiés de l'intérieur. C'est ceux qui ont pu aller dans des villes ou des villages à côté, quoi, être déplacés en quelque sorte. Donc j'ai commencé mon enquête et je suis allé effectivement dans ce village détruit. C'est exactement ça, c'est pas un décor, c'est un vrai. Et voilà, et c'est comme ça que tout a démarré.
Dans votre film, quand on voit le décor, on retrouve beaucoup de douceur, de beauté dans les paysages, dans les rivières, même dans les arbres, on voit les oliviers. Est-ce que, enfin, du coup, toute cette douceur et cette beauté, elle est loin en fait des images d'actualité qu'on aurait l'habitude de voir. Est-ce que ça aussi c'était un objectif dans ce film?
Alors, c'était pas un objectif. Ça s'est fait naturellement pour moi. J'avais envie de raconter cette histoire avec ce rythme-là, avec cette douceur-là. Mais effectivement, plein de gens m'ont fait cette remarque. C'est vrai, c'est juste, parce qu'on est souvent abreuvé d'images hyper violentes, surtout depuis le génocide de Gaza, mais même avant, évidemment. Et je suis vraiment dans quelque chose de plus contemplatif, ce qui n'enlève rien aux propos politiques, évidemment, mais voilà.
Vous mettez donc en lumière ce conflit israélo-palestinien par le prisme d'une jeune femme. Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de mettre en lumière la jeunesse et aussi peut-être la place de la femme au sein de ce conflit ?
Oui, alors la place, la femme, pas particulièrement, c'est un peu un hasard en fait, parce que comme j'ai vu cette jeune fille qui est plus jeune hein, dans la réalité, qui avait 12-13 ans, dans mon film elle a plutôt 20 ans, ça s'est fait comme ça. Voilà, c'est d'où le personnage féminin. Après, c'est vrai que les contacts que j'ai eus étaient beaucoup féminins, c'est vrai que les femmes ont un rôle très actif, les hommes aussi, mais les femmes peut-être d'une certaine manière plus, je sais pas, c'est mon intuition que j'ai comme ça en disant que une vraie force quoi, parce que les contacts que j'avais là-bas étaient celles qui m'ont mis en contact avec d'autres gens, c'était tout le temps des femmes. Donc voilà, donc c'est vrai que ça me semblait évident que c'était une femme. Pardon, c'était quoi la suite de la question?
Peut-être, on parlait de la femme, mais peut-être aussi de la jeunesse. Est-ce qu'il y a justement...
Oui, oui, tout à fait, c'est la jeunesse, effectivement. Alors, il y a plusieurs générations dans le film. Il y a le grand-père qui a été expulsé, il y a les parents qui ont été un peu écrasés. Et c'est marrant, parce que, enfin c'est marrant, c'est pas marrant du tout, mais ce que m'ont dit les Palestiniens, parce que j'ai pu projeter le film aussi là-bas, notamment à Jaffa, et dans le village aussi, mais à Jaffa, les Palestiniens, parce que c'était un public palestinien, m'a dit, c'est incroyable, parce que tu décris exactement ce que nous, on vit. C'est-à-dire, il y a les grands-parents, quand ils sont encore vivants, qui sont dans un esprit de résistance, de retour, etc. Les parents qui ont souvent été écrasés, en fait, écrasés, submergés par cette histoire et écrasés par tout simplement le fait que il n'y avait pas de solution autre que de subir voilà, cet état de fait et qui ont très peur pour leurs jeunes, leurs enfants. On les voit inquiets pour Naham dans le film, etc. Et c'est vrai que ça, c'est une sorte de... Ces trois générations, c'est assez proche d'une réalité. Souvent, les jeunes me disent, mais moi, mes parents, à chaque fois que je vais aller dans une manif, ils me retiennent par la manche. Il y a eu comme ça une génération un peu écrasée, quoi. Et la jeunesse aujourd'hui, qui est hyperactive. Alors, bien sûr, là, on est dans une société qui est tellement, fasciste, quoi. Donc, du coup, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a quand même cette jeunesse qui a repris le flambeau. Et on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, des jeunes qui sont très actifs. Et voilà. Donc, loin d'être écrasés, les Palestiniens continuent la lutte. Et c'est vrai que la jeunesse a repris vraiment le flambeau des aînés.
Comment est-ce qu'il a été construit, le casting? Parce qu'il me semble que... pas tous les acteurs dans le film sont des acteurs professionnels.
Oui, absolument. Au départ, je voulais presque quelque chose de... En fait, je voulais pas vraiment d'acteur. Je m'intéressais à cette espèce de ligne un peu fine entre la fiction et la réalité. C'est ça qui m'intéresse, d'être au plus proche d'une sensibilité du réel, en fait. Et je me suis toujours appuyé sur le réel. J'ai jamais inventé quoi que ce soit. J'ai jamais projeté des choses, parce qu'il faut aussi faire attention à sa place. Moi, je suis français. Bon. Et donc, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est eux qui ont fait le film. C'est eux qui ont fait le film, et moi, j'ai mis à disposition les moyens pour le faire. Donc, par exemple, quand ils parlent, c'est leur parole, c'est leurs sentiments, c'est leurs impressions. Quand ils disent « est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part ?», c'était un dialogue qu'ils ont eu ensemble, autour du feu, par exemple. Et donc, ça s'est fait comme ça, dans un truc très spontané. Quand le monsieur poète, le papy poète récite ses poèmes, en fait, il est comme ça, Abou Rayek. C'est un poète. Et donc, alors qu'au début, mon personnage, celui que j'avais écrit, était un taiseux, était un papy taiseux, mélancolique. Et quand j'ai rencontré Abou Rayek, le papy, dans le film réel, je me suis dit, bon, il est extraordinaire, il faut qu'il soit dans mon film. Il a accepté, mais je voulais qu'il soit comme il est. Donc, il fait de la poésie. Il fait, bah, vas-y, fais de la poésie. Donc voilà, je me suis toujours adapté au réel, en fait.
Donc vous avez fait le choix de laisser beaucoup de liberté, d'une certaine manière, aux personnes qui figurent dans le film.
Ah, j'ai complètement. C'est-à-dire que je voulais surtout pas, encore une fois, plaquer des choses. Donc ils avaient... Il y avait un cas, il y avait un film, il y avait une écriture, il y avait un scénario. C'était pas... tous les jours, on se disait pas qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais à l'intérieur de ce cadre... Il y avait une liberté de parole, une liberté, s'il me proposait quelque chose, bah on y allait aussi. Voilà, mais je voulais qu'on soit au plus proche du réel. Et si j'avais écrit quelque chose qui leur avait semblé faux, on en aurait parlé. S'il m'avait dit, non mais tu sais Camille, là, ce truc-là, ça ne marche pas du tout, j'aurais dit, ok, on change, mais ça n'a pas été le cas. Tout s'est fait de manière fluide.
Est-ce que vous avez dû demander, enfin, est-ce que des autorisations pour tourner ce film qui se passe quand même en Israël et qui traite d'une question quand même assez sensible de la mémoire, est-ce qu'il y a eu des autorisations ou des interdictions aussi? Comment ça s'est passé?
On a fait un tournage assez discret parce que c'était vraiment un très petit film. En fait, c'est un budget de court-métrage. On a débordé un peu dans le temps. C'est donc un court long-métrage. Ouais. Mais du coup, on avait vraiment une toute petite équipe quasi documentaire. Donc, c'était discret. Donc, on n'a pas été inquiétés.
C'est un film qui a été réalisé avant les attaques du 7 octobre. Donc, avant la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Gaza complètement détruit, des milliers de victimes, d'innocents, femmes, enfants. Est-ce que vous percevez ce film différemment aujourd'hui? Est-ce que justement dans ce contexte, le film a d'autant plus de sens?
Bah, c'est-à-dire que moi, ça fait des années, des années, des années que cette histoire m'habite en quelque sorte. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait le film, bon, bah, les Palestiniens étaient un peu sortis du pas pour les militants, pas pour les gens qui sont voilà dans cette histoire, mais de manière générale, c'était plus trop dans la carte de l'agenda international, quoi. Et moi, je savais, parce que je voyais bien que tous les jours, avant le 7 octobre, il y avait des enfants tués en Cisjordanie, des colons qui attaquaient, des pogroms de colons, pour le coup. Hein. Avant le 7 octobre, il y a eu énormément d'attaques, des provocations, etc. Bref, donc, je savais que c'était explosif. Mais voilà, ce film, ce qui est frappant, évidemment, c'est que là, aujourd'hui, depuis le 7 octobre, les Palestiniens vivent une deuxième Nakba encore plus violente, encore plus radicale, puisque hautement technologique. Et donc, évidemment, ce film fait écho, parce que il parle de la première Nakba, de 48. Donc, ça résonne très fort aujourd'hui, oui. Oui.
Vous avez déjà pu réaliser un film sur la question israélo-palestinienne, un film qui s'appelait Verrou Israël. Est-ce qu'avec la situation, donc on vient d'en parler, de la situation actuelle qui a beaucoup évolué, malheureusement vers le pire, vous avez pour projet dans un futur proche ou lointain de vous relancer dans la réalisation d'un film qui pourrait traiter de cette question, puisque vous disiez aussi que c'est une question qui vous habite?
Oui, bah j'avais un projet bon qui était tiré d'un roman, mais que ça n'a pas fonctionné. Et là, je réfléchis à d'autres façons d'aborder le le sujet, oui, oui, c'est quelque chose qui continue à m'habiter, effectivement. Donc, j'ai des idées de continuer, oui, oui, oui.
Et pour la dernière question, on rappelle, c'est un film qui a été sélectionné pour le Festival des droits de l'homme, qui interroge, qui dénonce ou qui met en lumière des violations de droits fondamentaux, mais aussi... pour ce festival, on essaie de célébrer aussi la quête de la justice, de la solidarité, de la résilience. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre film? Je pense notamment à Naham, cette jeune Palestinienne qui est prête à prendre des risques pour réinvestir l'histoire de ses origines.
Oui, bah c'est simplement, voilà, tout simplement, effectivement... Ça revient un peu à ce que vous, la première question que vous me posiez, c'est-à-dire c'est plutôt dans la douceur, et il y a effectivement ça ne veut pas dire du tout qu'on élude la violence profonde de cette histoire et l'injustice de cette histoire, mais on est avec ces villageois, c'est des villageois qui à la fin font une fête, dansent ensemble avec des générations, les anciens, les jeunes, tout le monde. Il y a beaucoup d'amour, je crois. Dans ce film, et d'ailleurs c'est marrant parce que Sama, qui joue le rôle de Naham, on l'avait présenté ce film à Paris, et elle avait employé ce mot-là, elle avait dit c'est un film, Naham, Sama l'actrice, c'est pas du tout quelqu'un qui est dans la flagornerie, vraiment pas du tout, elle a dit on a fait ce film avec beaucoup d'amour et j'espère que vous allez le sentir. Et c'est ça, je pense que c'est de l'amour dans la justice, c'est de l'amour entre eux, c'est de l'amour entre tout le monde, en fait. C'était une expérience assez bouleversante. Je pense que c'est ça qui peut nous guérir aussi. C'est l'amour, c'est... Voilà.
Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup à vous.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et on remercie Julien Collot qui nous a présenté l'association Mascarade Records. On remercie bien évidemment Luc qui était à la technique ce soir. Et on se dit demain, même heure, sur C'est vous qui le dites.